Mémoire vive,
présentée par Stéphane Bou
et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah pour RCJ. La France juive d'Édouard Drumont paraît en 1886 et, comme l'écrit l'historien Emmanuel de Bonneau au début de son livre « Le racisme dans le prétoire », la possibilité qui est alors laissée au pape de l'antisémitisme d'insulter copieusement les juifs doit beaucoup à l'adoption de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Jusqu'à la sujette à des restrictions, la liberté d'expression reçoit des garanties juridiques importantes. Et Emmanuel de Bonneau de rappeler que ces libertés ont tout de suite suscité une interrogation sur leur extension. L'historien cite par exemple un rédacteur de l'hebdomadaire L'Univers israélite qui, en 1887, choqué par la violence des propos anti-juifs publiquement exprimés, fait valoir la nécessité d'instaurer des limites, car cette liberté, dit-il, est devenue une provocation permanente à la guerre civile. Les termes du problème sont d'emblée posés. D'un côté, un droit fondamental des démocraties, la liberté d'expression. De l'autre, la conscience que cette liberté ne saurait s'exercer sans trouver un frein à ses excès, des excès à définir. À quelles conditions une opinion devient-elle un délit, doit-elle être interdite? Comment le droit français a-t-il intégré les préoccupations d'une lutte contre le racisme et l'antisémitisme? Comment les militants antiracistes ont-ils agi sur le terrain judiciaire? Ce sont quelques-unes des questions sur lesquelles revient donc le dernier livre d'Emmanuel de Bonneau que nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui. Bonjour Emmanuel de Bonneau.
Bonjour.
Alors, on se souvient de votre livre précédent, Aux origines de l'antiracisme, la LICA, et je dis bien la LICA et pas la LICRA, 1927-1940, puisque la LICA devient la LICRA un peu plus tard, qui retraçait l'histoire des pionniers du militantisme antiraciste en France. Alors, est-ce que, comment vous articulez ce nouveau livre par rapport à l'ancien? C'est pour ce nouveau qui est paru au PUF, hein, Le racisme dans le prétoire, qui est sous-titré Antisémitisme, racisme et xénophobie dans la loi. Est-ce que c'est une manière pour vous de poursuivre l'histoire de l'antiracisme aussi, hein,
c'est... Oui, absolument. Alors, c'est vrai que la LICA, ça avait été une... Bon, d'abord, c'était ma thèse, et il s'agissait déjà de parler des débuts de l'antiracisme au plan militant au XXe siècle en France. C'est la première organisation ayant véritablement pris les choses à bras le corps, si j'ose dire, de manière systématique. Et au cours, en fait, de ces recherches, j'avais rencontré toutes ces discussions au sujet de la loi Marchandeau, qui fait en fait l'objet de ce nouveau livre.
Et quel point de départ de ce nouveau livre, c'est la première loi en question.
Absolument, voilà. en France.
En France.
Et alors, même si évidemment avant il y avait eu des réflexions à ce sujet, comme vous l'avez rappelé, hein, à l'époque de Drumont, évidemment, mais avec la LICA dans les années 1930, ça devient tout simplement un leitmotiv, voire un slogan. On réclame très régulièrement de frapper la parole raciste.
Et parce que moi, ce qui m'a frappé, c'est pour ça que j'ai cité cet hebdomadaire qui répond en 1887 à Drumont à ce moment-là. C'est une demande qui est formulée à ce moment-là. On a l'impression que la loi Marchandeau, vous venez d'évoquer, qui arrive bien plus tard, en 1939, c'est-à-dire quasiment 60 ans après cette phrase parue dans l'hebdomadaire. Ouais. Bon, on a l'impression qu'il faut 60 ans pour que la loi vienne prendre en charge une demande qui est faite au moment où explose cette violence antisémite à ce moment-là.
Oui, pardon. Mais dans le fond, la loi répond davantage en fait à des préoccupations liées aux tensions internationales et à un impératif de défense de la nation, puisqu'en fait, c'est pas une loi qui va défendre les juifs, c'est pas une loi qui va défendre les minorités, c'est une loi qui va surtout faire en sorte de sanctionner ceux qui cherchent à diviser les Français. Et c'est vrai qu'il y a ce contexte qui est à point en 1939, hein, si j'ose dire. Et à ce moment-là, les revendications qui ont effectivement, qui sont multipliées depuis le début des années 1930, et en particulier depuis l'arrivée des nazis au pouvoir en 1933, avec toute une agitation, une propagande sur le territoire français, à ce moment-là, effectivement, le gouvernement est mûr. Mais je crois qu'il faut vraiment insister sur le fait que cette loi n'est pas une loi souvent, on l'appelle loi antiraciste, mais c'est d'abord une loi de cohésion nationale. C'est une loi pour préserver la nation de tentatives de division.
Vous rappelez souvent les textes de l'époque qui disent il faut se protéger contre les tentations de la guerre civile. Il y a l'idée de la guerre civile qui revient. Je vais lire le texte. Hein. Donc la loi Marchandeau 1939, vous allez nous raconter comment elle est mise en place. Et puis elle est mise en place, puis elle ne va pas rester longtemps puisque ça va être l'occupation avant de se réinstaller après-guerre, évidemment. Donc c'est le 21 avril 1939. C'est une loi qui, je pense, je ne crois pas me tromper, mais elle, en fait, c'est une manière pour elle de modifier la loi sur la liberté de la presse en prévoyant des poursuites. Alors là, je cite, « Lorsque la diffamation ou l'injure commise envers un groupe de personnes appartenant par leur origine à une race ou une religion déterminée aura eu pour but, alors c'est ce sur quoi vous insistez, aura eu pour but d'exciter à la haine entre les citoyens et les habitants. » Fermez les guillemets.
Oui, alors c'est une rédaction qui est assez compliquée et qui... Alors, va pas faire sentir ses limites dès 39, parce qu'en l'occurrence, en 39, le gouvernement va agir très très vite et va effectivement mener une certaine action de justice contre des propagandistes pro-hitlériens, comme Darquet de Pellepoix, par exemple. Mais au lendemain de la guerre, en temps de paix, justement, où là, la liberté d'expression reprend tous ses droits... ça devient compliqué. Là, on se rend compte qu'effectivement, ce libellé que vous avez rappelé, qui est assez complexe, notamment effectivement cette question de l'intention d'exciter à la haine entre les Français ou les habitants, les habitants étant bien sûr dans l'esprit du législateur les étrangers. Voilà, là, à ce moment-là, ça devient compliqué. Donc effectivement, oui, c'est diffamation. Et injure. Ça, ce sont vraiment les deux délits qui viennent s'ajouter, en fait, alors qui sont déjà définis par la loi de 81, auxquels on ajoute justement cette question de l'insulte ou la diffamation vise une personne d'un point de vue racial ou religieux. Ce sont les deux entrées.
Est-ce que vous pouvez revenir sur la manière avec laquelle... quelles furent les réactions de la loi Marchandeau par ceux qui sentaient menacés, on pourrait dire. Parce que moi, ce que je trouve passionnant dans votre livre, c'est à la fois la manière avec laquelle vous racontez comment le combat antiraciste se déplace sur le terrain vraiment judiciaire, il s'agit de voter des lois. Et aussi, vous faites, une histoire de la manière avec laquelle le racisme cherche à confronter à ces nouvelles lois, s'invente un nouveau langage, on pourrait dire.
Oui, absolument. Alors, l'antiracisme cherche toujours des modalités d'action nouvelles, des moyens d'action. Et c'est vrai que donc, ce sont les débuts de la judiciarisation de l'antiracisme, dont aujourd'hui, évidemment, on voit aussi parfois certaines, à la fois des limites et puis certains excès, très clairement. Oui, à ce moment-là, il y a le sentiment que la loi peut vraiment faire taire les agitateurs, les insulteurs, les diviseurs, etc. Et je crois il faut vraiment souligner l'importance du contexte. C'est vraiment un contexte antifasciste. À ce moment-là, la LICA, son combat est complètement celui des organisations antifascistes. La LICA a été aux côtés de toutes les associations et partis, syndicats, etc., qui s'étaient unis dans le Front populaire, qui vont un peu se diviser par la suite. Et si, d'ailleurs, il restera évidemment des antifascistes, on les trouvera souvent à la LICA même, parce que à la LICA, on fait pas du tout le combat contre Hitler, contre les dictatures en général, les dictatures fascistes. Il n'y a pas du tout de compromis possible. Hein. C'est vraiment, il y a une volonté de... dans des coups, ce qui vaudra à la LICA d'ailleurs cette réputation d'une organisation va-t-en-guerre et assez belliqueuse, mais en vérité il y a une clairvoyance par rapport à ce qu'est le nazisme et ce qui est promis effectivement à la fois aux juifs, mais aussi à travers les juifs, à tout ce qui à la démocratie, enfin aux démocrates et aux... Voilà, donc en fait ce contexte est vraiment déterminant, et il est déterminant dans l'écriture de la loi, et je dirais qu'il porte, le contexte porte finalement la difficulté qui va donc être très forte par la suite d'appliquer la loi.
C'est-à-dire revenir, mais alors il faut aussi rappeler que la loi Marchandeau, elle est votée en 1939, que le régime de Vichy...
Elle n'est pas votée,
elle est adoptée en 1939.
Ouais. À la suite d'un décret.
Voilà, elle fait l'objet d'un débat à ce moment-là, mais avant la guerre. Ensuite, évidemment, c'est Vichy, elle est totalement oubliée. Elle revient dans le débat, on pourrait dire, après-guerre. Et alors, particulier dont on pourrait penser qu'elle serait unanimement acceptée compte tenu de ce qu'on a appris après la guerre. Est-ce que ce livre, pour moi, révèle beaucoup, c'est à quel point le contexte, évidemment, a changé, mais pas tant que ça du côté de ceux qui diffusaient la parole raciste et du côté de la parole antisémite. C'est-à-dire, c'est là où il y a une invention des nouvelles modalités, mais en fait, vous montrez très bien une persistance de la parole antisémite dans les années d'après-guerre. Mmh. Et là, je parle vraiment de 45-50 jusque... Il va y avoir une grande rupture, ça va être la question de 1967. Plus tard, on pourra y revenir. Mmh. Mais là, il y a une période où quand même la parole antisémite, raciste... cherche à se dire, quoi.
Alors, tout à fait. Et alors, si vous me permettez de revenir un tout petit peu, effectivement, en 39, mm-hmm. Il faut bien voir que la loi, au début, n'est pas, il y a quand même des levées de boucliers dans le monde de la presse. Les ennemis de la loi, parce qu'il va évidemment y en avoir au moment où le gouvernement, dont choisit de faire passer ce texte par un décret, les voix d'opposition ne sont pas celles uniquement des militants à cette époque-là, des activistes antisémites comme Darquier, comme Coston, comme Jean Boissel et un tas d'autres. C'est le monde de la presse. Hein. Le monde de la presse est libéral, extrêmement libéral, et extrêmement attaché à cette idée de liberté d'expression et craint tout infléchissement en ce domaine. Donc il y a vraiment une résistance très forte et je crois que c'est pas inutile de rappeler aussi que Marchandeau lui-même était un homme de presse, Paul Marchandeau. Et que très très peu de sources, en tout cas j'en ai pas trouvé vraiment beaucoup sur les débats qui ont pu vraiment, où Marchandeau lui-même a pu être mêlé, mais il y a un compte-rendu qui montre qu'en fait on a quand même l'impression qu'il
fait ça, ouais,
il est un peu à contre-cœur. Mmh. Enfin, il est pas totalement lui-même convaincu, il explique en fait au patron de presse qu'il est un peu obligé de le faire.
Mais un des arguments clés tombe avec ce qui se passe pendant la guerre, c'est les mots. Les paroles et les actes, absolument. Il y a une continuité. Voilà. Et là, pour le coup, l'histoire nous le prouve, nous l'a prouvé. C'est-à-dire que les arguments en 39, mais attendez, c'est des mots, on peut parler, etc. Et là, évidemment, on ne peut plus rien dire.
Oui, mais alors, c'est pas si. Oh, c'est jamais...
On ne peut plus rien dire. En tout cas, cette question-là, elle s'impose, quoi. Des paroles aux actes, il se passe quelque chose. Voilà.
Alors, ça, je dirais que c'est un. C'est une réalité, mais c'est malgré tout, c'est pas non plus complètement évident dans l'esprit de. J'ai l'impression que finalement, ça a toujours été clair pour ceux qui sont concernés au premier chef et les militants, mais que malgré tout, au lendemain de la guerre, et vous l'avez rappelé, donc ce sont un peu les mêmes qui reviennent. C'est-à-dire qu'on a des pétainistes, des ex-collaborateurs qui vont bénéficier de soit qui sont passés à travers la maille du filet. Soit qui ont purgé, enfin qui ont été frappés d'indignité nationale ou qui ont finalement été amnistiés par les différentes lois en 51-53, qui reviennent et c'est vrai que c'est assez étonnant. On voit les mêmes plumes, Lucien Rebattet, Charles Maurras réussit à écrire depuis sa prison.
Il y a un procès contre Maurras qui va être diligenté sur la base d'articles qu'il écrit. Pour certains sous pseudonymes, mais après-guerre.
Ouais, absolument.
Ça, je ne savais pas.
Oui, absolument. Il faisait passer des textes depuis sa prison. Et donc, il y a notamment, enfin, pour Maurras, une recension qu'il fait du livre de Maurice Bardèche. Bon, un peu initial.
Tout ce beau monde se retrouve, en gros, dire après-guerre et continue le boulot, mais autrement.
Oui, bon, ouais. Sauf que dans le cas de, justement, c'est ça qui est intéressant, dans le cas de Maurras et Bardèche, c'est qu'en fait, le Bardèche qui sort le Nuremberg ou la Terre promise en 1848. Bon, on sait que c'est un petit peu l'acte un peu fondateur du négationnisme. Mais en fait, Maurras attaque lourdement, sous un pseudonyme, attaque le livre de Bardèche en disant que finalement, en gros, Bardèche écrit allemand et c'est un zélateur du nazisme. Tout ce qu'il le fait, il écrit par fascination du nazisme. Mais par contre, il a raison sur un point, les juifs nous doivent des comptes. Voilà. Mais il dit ça après, malgré tout, avoir expliqué que l'État français n'aurait jamais dû livrer les juifs, qu'il avait autorité. Mais là, c'est vraiment le nationaliste qui s'exprime et qui explique voilà, il y avait une souveraineté française et on n'aurait jamais dû lâcher là-dessus, donc c'était une faute. En revanche, effectivement, la guerre était juive. Là où Bardèche dit « oui, mais ils l'ont bien payé », Maurras dit, et il le répétera de nombreuses fois, « les Juifs nous doivent des comptes ». Et ça, il le dira effectivement jusqu'à sa mort en 52. Et il y aura, dès sa sortie de prison, parce qu'il finalement il bénéficie d'une grâce, il va attaquer lourdement, il reprend avec de son nom et une plume particulièrement fielleuse dans « Aspect de la France des chroniques, des tribunes ». Et il y aura finalement une action en justice qui sera menée à son encontre par le parquet et bon, il mourra juste quelques mois après, donc voilà, il n'y aura jamais finalement de... Maurras n'aura jamais été finalement jugé pour son antisémitisme.
Mais bon, vous rappelez le mythe selon lequel vous citez René Raymond, l'historien René Raymond, qui avait la fin de l'antisémitisme après-guerre. Vous montrez que non, et vous montrez que la LICAR que des associations juives, que le MRAP, enfin, sont en première ligne et vont chercher. Alors là, pour le coup, ça ne s'arrête pas. Ils vont dénoncer en permanence les Alors, le terme, c'est la question principale qui est posée, c'est est-ce qu'il y a une excitation à la haine qui est posée ? Et il y a, moi j'aimerais que vous évoquiez cette chose, parce que c'est par exemple quelque chose autour de l'affaire Pierre Ross. Parce que Pierre, ce qu'il faut dire aux auditeurs, c'est que chaque chapitre, souvent, suit un procès, suit des affaires. Hein, et on pourrait dire que c'est une histoire qui à la fois suit comment dire, un problème presque théorique de juridique et qui, en même temps, qui est très ancré à chaque fois dans des cas. Alors, il y a un moment vous appelez l'affaire Pierrot, et dans ce contexte-là, il y a des gens qui réclament, après-guerre, la formule est exceptionnelle, hein, un antisémitisme mesuré et raisonnable à la française.
Voilà. À la française, oui. Et c'est bien tout
qui n'exciterait pas donc à la haine.
Voilà, mais ça c'est la position maurassienne, hein, historique. C'est-à-dire qu'effectivement, nous on n'est pas des barbares, on n'est pas des... À la différence des Allemands, à la différence des nazis, on ne fait pas de racisme de peau. Hein, et donc, il y a un problème avec les Juifs, qui sont une forme d'État dans l'État, il y a une diaspora, on ne sait pas finalement dans quel ce que vont faire les Juifs en cas d'invasion allemande. Est-ce que les Juifs français seront par solidarité raciale du côté des avec les Juifs allemands ? Bon, il y a toutes ces questions qui font que finalement un Juif même ou un Israélite, quel que soit le nom qu'on lui donne, même s'il a combattu sous l'uniforme français, enfin un Juif français, ne sera jamais, enfin son patriotisme sera toujours sujet en fait
à suspicion. Mais l'argument est fou. Enfin, il me semble que il y a beaucoup de pages où peut-être vous pouvez évoquer ce cas, l'affaire
Pierre Ross. Oui, justement.
Ouais.
Alors, donc Pierre Ross, finalement, enfin, c'est cet article qui sort à l'automne 50 de mémoire est un journal qui n'a sans doute pas une très grande diffusion, mais à ce moment-là, dans les années 50, il y a eu une agitation dans le Quartier Latin où des groupes royalistes et ce journal qui s'appelle Contre-Révolution il y a des articles où on rend hommage à Édouard Drumont, et c'est lors justement d'un hommage à Édouard Drumont qu'il y a cet article. Alors, on ne connaît pas le Pierrot, c'est en fait le gérant, enfin le propriétaire du livre, son directeur, du magazine, et c'est lui qui, évidemment, va aller en justice, puisqu'on ne connaît pas l'auteur. Mais effectivement, il réclame en fait des mesures, alors il le dit, vous avez rappelé les mots, raisonnables.
Antisémitisme mesuré et raisonnable, et souvent on dit à la française, hein, il y a un bon antisémitisme. Oui. D'ailleurs, on pense un peu à la phrase de Bernanos à ce moment-là, qui n'est pas du tout dans ce contexte-là. Hein, quand la fameuse, tout le temps citée de Bernanos, Hitler a déshonoré l'antisémitisme. Il s'agirait de redonner une sorte d'honneur à un antisémitisme mesuré et raisonnable.
Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Et c'est en fait pour éviter les pogroms, pour éviter finalement d'avoir un nazisme destructeur, etc. Il faut anticiper et donner une citoyenneté particulière aux Juifs, parce que de toute façon, ils sont là, mais il y a quand même des mesures à prendre. Et le fait d'insister sur le fait de prendre ses distances par rapport à la barbarie nazie, hein, c'est ce qui est écrit dans cet article, fait que finalement, lors du procès qui va être mené contre ce journal, eh bien, le directeur sera acquitté parce que c'est la cour d'appel qui va estimer qu'en fait, il a utilisé des termes qui n'étaient pas violents et qu'on était vraiment finalement dans le... Je résume, hein, mais on était dans le débat d'idées et donc il n'y avait rien de... Voilà. Donc c'est là où on trouve cette question d'excitation à la haine. Qu'est-ce que l'excitation à la haine où commence-t-elle et on voit bien que dans un propos comme celui-ci, les magistrats ne font pas du tout de lien entre le fait d'appeler à des mesures particulières pour une catégorie de la population et ce que ça peut effectivement avoir comme conséquence dans l'esprit de nos concitoyens. Quoi.
Là, on a évoqué un procès, vous en évoquez beaucoup d'autres sur une période très longue. Il y a un moment qui va être important, qui est le moment 67, avec la question d'un combat antisioniste qui va s'exprimer publiquement, qui va déjà poser d'emblée des questions qui se posent jusqu'à aujourd'hui. On y reviendra peut-être. Parce que là, on a parlé en fait plus spécifiquement de la question de l'antisémitisme. Alors, je rappelle que votre livre, c'est sous-traité antisémitisme, racisme et xénophobie devant la loi. On a l'impression que c'est d'abord la question de l'antisémitisme ce qui amène, pour des raisons historiques évidentes, un certain nombre de questions. Mais beaucoup de vos chapitres évoquent plus spécifiquement la question du racisme anti-noir, anti-immigré. Enfin, il faut le dire. Et ça change un petit peu, il me semble, les données du problème. Il y a la question de la discrimination raciale qui va être aussi invoquée. Comment, en fait, peut-être que la question générale qu'on pourrait poser, c'est à quel point antisémitisme, lutte contre l'antisémitisme et lutte contre le racisme peuvent fondamentalement s'ajointer. Parce que ça va pas forcément de soi, évidemment.
Non.
C'est pas
non.
La même chose, le racisme et l'antisémitisme, on pourrait dire. Vous avez travaillé sur la LICA qui devient la LICRA. Et donc, on imagine qu'il y a des tensions internes dans ces...
Alors, effectivement, il y a 16 chapitres. Alors, c'est pas un procès, vous l'avez dit, il y a plusieurs affaires. Et je tiens effectivement à dire que il y a un poids plus important des affaires d'antisémitisme, mais c'est pas un choix personnel. J'ai vraiment suivi, et je pense qu'il était possible de faire la totalité. Je crois que j'ai à peu près toutes les affaires, en fait, qui ont été portées devant la justice, devant les tribunaux. Donc finalement, d'ailleurs, bon, ça a été l'occasion aussi avec l'éditeur, on en a parlé un petit peu, est-ce qu'on pourrait pas introduire un peu de ça, etc. En fait, on peut pas. Moi, j'ai suivi les affaires, et c'est vrai que il y a une focalisation sur l'antisémitisme qui est liée, comme vous l'avez dit, il y a des raisons historiques. Il y a le fait, voilà, on est aussi, il y a tout un contexte colonial où on arrive dans la décolonisation, où c'est pas très évident. C'est pas évident pour des organisations, notamment comme la LICA, qui n'a jamais été du côté, pour le coup, des luttes justement anticoloniales, à appréhender finalement des nouvelles formes de donc il y a une sensibilité évidemment au racisme colonial, mais pas fondamentalement à tout ce que ça peut, tout ce que les luttes coloniales peuvent entraîner. Donc c'est aussi effectivement une période où l'action militante se tend à s'organiser, à se préciser, où il y a des problématiques nouvelles. La question de l'immigration est évidemment traitée, celle des discriminations, qui est en fait, contrairement à ce que disent beaucoup de sociologues actuels, hein, en expliquant que finalement les discriminations c'est apparu dans les débats publics et dans les débats intellectuels seulement à la fin des années 90. Non, c'est pas vrai. On en parle beaucoup dès le lendemain de la guerre et parle. Le truchement, évidemment, de l'Union française et puis de la présence de nombreux députés, ils sont en 75 au lendemain de la guerre au Parlement en France. Donc, évidemment, des questions, des problèmes qui se posent dans les territoires sous lesquels que la France a encore sous sa coupe, des problèmes sont reportés au sein de l'Assemblée, sont discutés, des inégalités de salaire, de pension chez les militaires, etc. Et donc la question, le terme de discrimination prend vraiment son sens à ce moment-là.
J'étais étonné que ça arrive si tôt. Je pensais que ça arrivait.
Ouais, alors ça arrive, comme arrivent toutes les discussions au sujet de ces hôtels, de ces bars, de ces cafés, logements, qui ferment souvent la porte à des étudiants qui viennent d'Afrique du Nord ou d'Afrique subsaharienne, et ça entraîne des débats à l'Assemblée. Il y a des propositions de loi qui sont faites par des députés il faudrait le creuser, parce que c'est vraiment une terre incognita. Il y a dans des assemblées municipales, il y a aussi des débats. Je cite un extrait au début de ce chapitre, je crois, où un député communiste dit que voilà, il donne une définition très très actuelle de la discrimination. Et surtout le gouvernement a son propre projet de loi contre les discriminations, mais très clair, avec dans sa définition actuelle, avec des sanctions renforcées lorsqu'il s'agit de personnes qui sont dépositaires de l'autorité publique. Et c'est en 60. On n'est pas dans les années 90, on est bien en 60. Donc il y a une préoccupation de l'État, simplement. C'est la guerre d'Algérie, on fait passer des Algériens par-dessus.
Il y a des chapitres consacrés, il y a de nombreuses pages consacrées à la lutte antiraciste dans le sillage de la guerre d'Algérie. Je dis ça aussi parce qu'on va malheureusement s'arrêter, mais on va poursuivre dans une deuxième émission la discussion. Il y a des chapitres sur la question du racisme anti-blanc. J'étais surpris que la question du racisme anti-blanc se pose les années 70. Et puis bon, il faudra qu'on arrive... parce que là, en fait, on parle d'une époque, on est encore sous la loi Marchandeau, et évidemment, les deux derniers chapitres, ça va être la question de la loi Pleven, qui est encore évidemment en vigueur aujourd'hui, et qui va être notre époque. Donc moi, je propose qu'on se retrouve, Emmanuel de Bounon, dans une seconde émission la semaine prochaine, pour continuer la discussion autour de tous ces problèmes. Donc je remercie, je rappelle aux éditeurs que votre livre Le racisme dans le prétoire est paru au PUF, avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, qu'on va en reparler la semaine prochaine. Mais pour l'instant, on s'arrête là. C'était Mémoire Vive, deux adresses pour nous réécouter, radio-rcj.info et mémoirevive au pluriel.net, ainsi que sur l'application RCJ.